Merci Odile. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait plaisir de voir aussi des visages connus. Ça fait plaisir aussi de voir l'évolution de la restauration de ce bâtiment. C'est beau de voir combien les choses évoluent. Je m'appelle Marc Gallet. Je suis marié à Christine. Nous avons 3 enfants jeunes adultes. Nous servons actuellement l'église évangélique de Launay, dans la région de Morges. Et puis nous sommes aussi très heureux de rayonner dans d'autres endroits aussi et de servir d'autres lieux comme celui-ci. Christine est engagée à Launay dans le cadre de notre programme d'ado, donc elle n'est pas avec moi. Dommage, parce que j'aime bien quand elle est là. Au moins, elle va pas me couper la parole, parce que généralement quand je prêche, tout à coup elle se lève là, puis après elle se rasseye. Voilà. Donc vous le voyez. On va s'intéresser aux mages. C'est pas période de Pâques, puis parler des mages. Pourquoi pas? En fait, moi, je vous propose de voir le Mont Blanc côté Italie. Donc, de visiter cette histoire des mages sans l'histoire de Noël. S'intéresser à ces mages comme des personnages bibliques en dehors de l'esprit de Noël. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Voilà l'idée qu'on va vivre avec ce thème, en fait, où ils obéissent sans tout connaître d'avance et de marcher pas à pas. Voilà l'exemple des mages, et c'est ce qui va nous occuper ce matin pour la suite de ce culte. Mais avant de lire la parole, j'aimerais simplement, si la santé vous le permet, qu'on se lève et qu'on va encore prendre conscience que Dieu est là. Courtement. Et je vous propose aussi d'ouvrir vos mains, c'est une manière de dire que nous sommes nécessiteux, nous avons besoin de sa présence, les mains étant lieu de relation, et prier avec le corps est important. Et j'aimerais simplement dire cette très courte prière qui est dans le temps Ézéchiel, hein. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, illumine nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, renouveler notre intelligence. Viens, Saint-Esprit, ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous puissions t'entendre. Viens, Saint-Esprit, ouvrir nos yeux pour qu'on puisse te voir. Viens, Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances de nos vies d'aujourd'hui, quel que soit ce que nous avons laissé à la maison, soit nos joies ou nos défis, viens, viens parmi nous, viens nous parler. Merci pour l'œuvre du Christ à la croix, et merci parce que toi, mon ami le Saint-Esprit, tu l'accomplis dans nos vies, ce tout accompli de Jésus-Christ. Amen. Prenez place et nous allons lire dans Matthieu au chapitre 2. Et nous les voyons, hein, côté italien. D'accord? On le connaît par cœur, ce que, mais on regarde les Monts Blancs du côté italien. Ça, on connaît moins. D'accord? Donc, fixons nos regards sur ces mages. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Après avoir entendu le roi, on est au verset 9, un peu plus loin, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor, elles lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. J'aimerais quand même, avant d'ouvrir sur les mages, j'aimerais quand même revenir sur cette première phrase, Jésus naquit à Bethléem au temps d'Hérode. Jésus est venu dans l'histoire de l'humanité à un moment précis et à un lieu précis. Un moment qui est toujours notre calendrier, mais au moment que les historiens connaissent, le temps d'Hérode, Hérode est un roi connu, et à Bethléem, qui est une ville connue aussi. Jésus est venu marcher dans notre histoire. Jésus est venu marcher dans ton histoire. Jésus est venu sauver ce qui est perdu. C'est pas seulement les gens, mais c'est aussi les zones de ta vie qui sont perdues. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais te dire que Jésus est venu marcher dans ton histoire. Il est venu aussi sauver ce qui est perdu en toi. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans les relations, ça peut être des choses que l'ennemi t'a volées, des choses que les circonstances t'ont comprimées, des choses avec lesquelles tu te bats comme addiction ou d'autres choses. Sache que le pain et le vin qui proclament la mort et la résurrection de Jésus-Christ est venu sauver ce qui est perdu en toi. Il est vrai aussi que Jésus est venu en marge de l'histoire romaine. C'était vraiment en marge. Il y avait d'autres soucis à cette époque. Hein. Souvent, mais Jésus en marge de notre histoire. Et avec cet exemple des mages, on va réapprendre à mettre Jésus au centre de notre histoire. Alors ces mages, je ne sais pas combien ils étaient, ce que j'aime chez eux, c'est que, bien qu'astrologues ou astronomes, on ne sait pas vraiment non plus, ils ont été interpellés dans leur quotidien. Si je paraphraserais dans leur vie professionnelle, du lundi au samedi, tout à coup, ils ont pris conscience qu'il y avait quelque chose de différent. Ils ont laissé parler Dieu dans leur quotidien et leur quotidien professionnel. Tout à coup, une étoile est là. Tiens. Et ça, c'est la première chose déjà qu'on apprend de ces mages. Dieu te parle du lundi au samedi de tes activités et tes fonctions publiques, professionnelles, familiales, de loisirs, tes fonctions politiques. Dans ce que tu es en train de faire dans tes tâches, c'est à coup Dieu qui parle. Dieu est là aussi. Et Dieu peut t'interpeller. Ce que j'aime chez ces mages, c'est qu'ils se sont laissés interpeller, ils ont changé leur programme, et ils se sont mis en mouvement par rapport à ce qu'ils ont discerné. Alors, dans cette ère du temps, on pense, ça se disait qu'il y avait une étoile qui pourrait annoncer le Messie parmi les Juifs. Quelque chose qui se savait. On ne savait pas trop comment, mais ça se savait. Et ces mages ont compris que cette étoile avait quelque chose à faire avec ça. Et ils se sont mis en route. Ils ont changé leur programme. Ils sont sortis de leur zone de confort. Dieu a parlé, on se met en route. Puis alors après, ils sont pragmatiques. Ils se sont dit, si c'est un fils d'un roi, c'est dans un palais, dans la capitale, donc ils ont été voir Hérode. Pragmatique. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces mages, ils ont pas seulement, ils sont sortis de leur zone de confort, mais pas seulement, ils sont pas sortis de leur zone de compétence. Ça va un bout, mais pas tout. Et ils ont été chercher de l'information. Là, c'est la deuxième chose qu'on peut apprendre de ces gens, c'est qu'ils savaient qu'ils ne savaient pas tout. Et qu'ils avaient besoin des autres. Ils avaient besoin des théologiens. Ils avaient besoin de ceux qui savaient dans l'écrit, dans la révélation de la Bible, la Torah de l'époque. Ils savaient où devait naître le Messie. Mais les mages ne savaient pas. Et malgré qu'ils sont des érudits, des gens de la science, des gens avec une grande connaissance, ils connaissaient leurs limites, et ils avaient l'humilité de demander à ceux qui savaient que ce qu'eux ne savaient pas, demander conseil. Et je pense que là, il y a un début de la sagesse. De comprendre et de percevoir qu'on ne sait pas tout. En tant que communauté chrétienne, en tant que famille, en tant que responsable d'entreprise, etc., apprenons à reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin des autres. Alors, en Église, on a besoin des autres ministères. Peut-être aussi en Église, on a besoin des autres communautés qui nous inspirent par rapport à ce que nous sommes appelés à vivre dans notre lieu. Et puis aussi, pour beaucoup d'autres compétences, nous avons besoin des autres. Apprenons à reconnaître nos limites. Apprenons à dire « j'ai besoin de toi ». Une chose que nous avons vécue à l'année qui nous a permis de grandir, c'est d'être une équipe qui savait qu'il ne savait pas. Et le nombre de fois que le conseil me dit « Marc, va chercher ailleurs des idées, on ne sait pas comment faire. Va voir ailleurs, il m'envoie toujours ailleurs. » Et après, je me suis dit « on peut aller ensemble. » Quatre fois par année, le conseil, on va vivre des séances ailleurs. Ça peut être dans des entreprises, ça peut être dans des églises, ça peut être dans des séminaires, on va toujours ailleurs s'inspirer. Parce qu'on reconnaît, malgré l'autonomie locale, tout seul. Nous apprend ces matchs. Il y a une chose qui m'a troublé chez Aaron. Alors c'est clair, quand une équipe arrive, hein, et puis ils étaient en tout cas deux, voire plus, puis en caravane, puis ils arrivent là, ils parlent du Messie. 400 ans de silence, tout à coup, il y en a qui viennent et qui disent, il y a le Messie qui arrive. Alors c'est pour ça que Jérusalem était un peu troublée. Alors, laissons les Juifs troublés par cette bonne nouvelle, mais j'aimerais me concentrer sur Hérode. Hérode, lui, il est troublé, parce que tout à coup, il y a un successeur qui lui risque de piquer sa place. Et là, il a commencé à savoir un peu plus dans le but de tuer Jésus. On a tous des petits Hérodes en nous. Comment nous laissons lever la nouvelle génération? Est-ce qu'on la libère? Ou est-ce qu'on a peur qu'ils nous quittent notre place, ou peut-être qu'ils détruisent ce que nous avons construit? Et là, il y a une notion très importante à prendre conscience, c'est que nous avons un petit Hérode en nous. Et quand il y a une nouveauté qui arrive, ça nous menace. Et le risque, c'est d'étouffer. C'est de contenir. C'est de repousser. C'est menaçant. Or que si on regarde le message biblique dans sa globalité, en tant que parent, on est appelé à laisser partir, étant donné que les enfants sont appelés à quitter. Alors si les enfants sont appelés à quitter la maison, ben, les parents sont appelés à laisser partir. Comment laisser partir nos plus jeunes dans des projets qu'on ne comprend pas toujours, mais qui sont adaptés à leur temps? Et comment, en tant que jeunes, continuer d'honorer nos parents? Parce que si nous pouvons vivre ce qu'on vit maintenant, par exemple, si nous pouvons, je sais pas, en prenant un exemple d'ici, hein, si nous pouvons rénover un bâtiment, c'est parce que des parents ici présents ont eu la foi, il y a 40 ans, 50 ans, de le construire, ce bâtiment. Donc, il y a une notion, si on veut pas écouter nos Hérodes en nous, il y a une notion, une logique, c'est que les plus âgés libèrent les plus jeunes, et les plus jeunes honorent les plus âgés. Vous voyez? On libère comme plus jeune, comme plus âgé, et on honore comme plus jeune. Faisons attention à nos Hérodes en nous. Quand on est en communauté, quand on est en famille, moi, j'ai beaucoup appris de mon père qui, à mon âge, j'ai 60 ans, a remis son entreprise déjà à mes frères. Alors, quand on était jeune, je dis, c'est à peu près normal, il est vieux. J'ai 60 ans, j'ai puré, c'est tôt. Et il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait. Donc, apprenons à éduquer ces Hérodes en nous et libérons les plus jeunes.
Une autre chose qui m'interpelle avant d'aller plus loin avec l'image, c'est que l'image, eux, ils ont bougé, ils ont été adorés Jésus, mais pas les gens de la loi, pas ceux qui savaient tout. Le texte dit pas que les scribes qu'on dit cette parole de Michée, oui, le Messie doit naître à Bethléem, sont pas venus avec. Et ça me questionne. Qu'est-ce qu'on fait de notre connaissance biblique si ça ne nous sert pas de nous mettre en mouvement pour adorer Jésus? Alors je ne dis pas arrêter de lire la Bible, je n'ai pas dit ça. Ma méditation quotidienne, combien je l'aime et combien je l'apprécie et combien elle m'aide dans toute la journée. Mais ça ne sert à rien de savoir beaucoup de choses si ça ne nous met pas en route à aller adorer Jésus. Nos hommes chez ces mages, ils savent pas grand-chose. Une étoile, après ils ont compris que c'est le Messie, que le Messie, c'est pas dans un palais, malgré que c'est un roi, mais que c'est à Bethléem, qui n'est pas vraiment le Versailles de Jérusalem. Enfin, ils comprenaient. Mais ils ont dit, ah, si c'est là-bas, on y va. Tandis que nous, on a tellement de connaissances bibliques qu'on est capable de traduire la volonté de Dieu en l'expliquant avec la Bible. Pas mal, hein. Avec notre rationalisme et notre humanisme, on arrache toutes les pages où on n'est pas d'accord, toutes les pages où on ne comprend pas, toutes les pages où c'est pas possible. Il reste quoi de la parole? Qu'est-ce qui reste de la rédaction? Ce que j'apprends de ces mages, c'est ce qu'ils comprennent du divin, de révélé, mais ils l'appliquent. Ils y vont. Et dans ce sens, j'aimerais les appeler les fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a vécu la même chose, Genèse 12. Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit à Abraham, quitte la maison de ton père, viens au bon, 13e rue à gauche, pose-toi là. Il a dit, quitte et va vers le pays que je te montrerai. En fait, les mages vivent la même chose. Dieu parle, il fait un bout de chemin. Ils sont arrêtés, Dieu parle de nouveau, différemment, cette fois-ci, à une étoile, non, c'est la parole, bon, je vais lire, et ils sont de nouveau en bout de chemin. Et en fait, à mesure qu'ils obéissent à ce que Dieu leur dit, Dieu leur révèle ensuite. Et on a souvent à vouloir quel business plan pour peut-être évaluer si on est d'accord d'obéir. Et puis, il y a cette parabole qui dit, c'est Jésus qui dit, hein, celui qui m'écoute et qui met en pratique la parole est quelqu'un qui construit sur le rocher, le roc. Quand les étoiles disent le roc, c'est Jésus. Non, là, c'est pas. Non, c'est celui qui écoute et met en pratique construit sur le roc. Donc, d'apprendre à écouter, que ce soit par une parole, la parole inspirée, la Bible, que ce soit par les circonstances, ce qui amène la vie, ce qui amène la stabilité. C'est la mise en pratique. Oui, mais on est sauvé par grâce. Oui, on est sauvé par grâce, mais pourquoi Éphésiens? Pour des œuvres préparées d'avance. Pour même quelque chose. Donc nous sommes appelés, en fait, à revisiter la manière que on reçoit des paroles de Dieu et qu'est-ce qu'on en fait avec. Sans attendre tout le business plan. La parole de Dieu dit, je suis une lampe à mes pieds, et je suis une lumière sur ton sentier. Donc le prochain pas est toujours possible, est toujours clair. Le chemin, on commence à le voir, et obéissons sur le premier pas. Alors revenons à ces mages qui vont adorer Jésus. Alors ils viennent avec leur cadeau, ce qui permet peut-être d'avoir les finances pour cette famille, pour se réfugier en Égypte, vu qu'Hérode est en train d'arriver avec son génocide. Mais j'aimerais m'arrêter brièvement sur l'adoration. Adorer Jésus, ça veut dire. En fait, la réalité, c'est qu'on devient ce qu'on adore. On devient ce qu'on adore. Donc, si on adore Jésus, on devient comme Jésus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais si on adore d'autres choses, on le devient aussi.
L'adoration n'est pas seulement un temps de louange comme on a vécu magnifiquement ce matin. L'adoration, c'est aussi, dans une circonstance difficile, dans l'épreuve, dans le questionnement, dans le secret de ma chambre, de décider de mettre Jésus à la première place. L'adoration, c'est quand personne ne me voit, de choisir la vie, de choisir Jésus, de choisir de lui faire confiance. L'adoration, c'est de se soumettre à ce que Dieu me dit de différentes manières. Donc apprenons à être des adorateurs. Je ne sais pas si c'est théologique, il y a cette théologie dans la salle pour me reprendre, mais je ne sais pas si Dieu a besoin d'une adoration. Il y a les anges, ils tournent là. Ils vont-ils l'adoration nuit et jour? Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que Dieu a besoin d'adorateurs. Dieu a besoin d'être en relation avec nous. Et Dieu a besoin qu'on lui fasse confiance. Et quand Dieu parle, qu'on obéisse et lui faire confiance. Et la dernière chose, j'aimerais m'arrêter sur ces mages, c'est sur leur capacité, alors qu'ils ont tout réussi, leur objectif, hein, découvrir le Messie et l'adorer, alors qu'ils ont tout réussi, ils sont encore capables d'écouter et de changer leur plan. Moi, je ne sais pas que vous, mais dans mon expérience, c'est plus difficile dépendant de Dieu dans la réussite que d'être dépendant de Dieu dans l'échec. C'est beaucoup plus difficile dans la vie de gérer la réussite que de gérer les échecs. Les échecs me poussent à Dieu, pas forcément la réussite. Et là, je vois des personnages bibliques qui, dans la réussite, mission terminée, sont encore capables d'entendre Dieu, encore dans une langue différente, par des songes, et de changer leur plan, qui n'était pas la peine, c'est de s'opposer à l'autorité locale, qui ne peut pas entendre. Ils ont risqué leur vie en allant chez Hérode. Je suis sûr qu'ils étaient contents d'avoir passé la frontière. Et moi, j'apprends d'eux que même dans la réussite, mission terminée, tout, ils sont capables. Ok, changement de programme, on obéit. C'est vrai que, non seulement dans la réussite, mais encore d'une autre manière. Ils ont d'abord, par les circonstances, l'étoile, après par la parole révélée, la Bible, puis après par les songes. Alors, on serait tenté de faire une église par obédience, puis on tape dessus théologiquement. Puis en fait, non. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, ils ont cette capacité chaque fois de l'entendre et de l'obéir. Alors, j'en ai terminé simplement par ces quelques mots. Alors là, je reviens aux notes pour pas m'oublier, pour rien oublier. J'aimerais dire simplement comme ça, si Dieu t'a parlé sur tel sujet où tu bagarres et je ne sais pas, les circonstances, ta lecture quotidienne, voire par en rêve, tu sais très bien ce que tu es en train de te dire. Ose obéir. Ose lui faire confiance. Mais apprends aussi à oser te laisser déranger dans ton quotidien par le Seigneur. Il ne parle pas seulement le dimanche. Ose aussi demander de l'aide quand tu touches tes limites. Dieu place autour de toi des gens qui sont capables de t'expliquer certaines choses que tu ne maîtrises pas. Dieu place aussi, selon les questions spirituelles, Dieu place des ministères autour de nous qui peuvent nous expliquer certains passages bibliques difficiles, même offensants, qu'on ne comprend pas. Il y a des docteurs parmi nous qui nous les expliquent. Ose mettre en pratique ce que tu médites dans la parole. Si tout à coup, dans ta lecture quotidienne, il y a un verset qui ressort comme ça, par rapport à une situation, ce n'est pas par hasard. Le problème, ce n'est pas de le comprendre, c'est d'y obéir. D'abord, pas d'ennemi, c'est facile à comprendre, le concept. C'est l'obéissance qui pose problème. Ose l'adoration, quelles que soient les circonstances. Positionne-toi sur les promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances, et ose rester dépendant de Dieu, même quand tout réussit. Ose être dépendant de Dieu. Je vous invite à prier, et puis ensuite Odile me rejoint. Seigneur, tu connais cette assemblée, tu connais ce que chacun individuellement vit. Merci parce que tu es un Dieu de dialogue, merci parce que tu es un Dieu de parole, merci parce que tu maîtrises toutes choses. Je te prie, particulièrement pour ceux et celles ici qui sont dans une impasse, qui bagarrent contre la maladie, qui sont dans des situations de rupture, dans des situations de perte de confiance en eux. Quel que soit le moyen, Seigneur, parle dans leur vie. Ouvre un chemin devant leur pas. Au nom puissant de Jésus.